Comme chaque jeudi, le Monde selon Edoui Plenel. Bonjour Edoui.
Bonjour Marc.
Et vous revenez aujourd'hui sur la loi, sur le renseignement qui fait, on le sait, quelques débats, voire remous en ce moment dans le milieu politique et ailleurs.
Oui, en ces temps ici à la Maison Ronde de fin de grève, je me demande quelle forme pourrait prendre une grève de la société. Car peut-être faudrait-il que la société se mette en grève. Vous, moi, nous tous. Car actuellement, on est en train de nous fabriquer un mauvais coup en notre nom, sans nous écouter, sans nous entendre, en faisant exactement l'inverse de ce que nous souhaitons. Il s'agit de cette loi sur le renseignement, fabriquée dans la précipitation, sous le choc des attentats, et que le gouvernement a mis à l'ordre du jour en procédure d'urgence, et dont l'échéance de vote sera le 5 mai prochain. Cette loi sur le renseignement invoque la défense de la société. Il faut défendre la société, disait déjà Michel Foucault, pour résumer ces pièges par lesquels on impose à la société des politiques contre la société, des politiques de surveillance, des politiques de la peur, des politiques où le pouvoir dit à la société « Ayez peur et je m'occupe du reste ». Alors cette loi sur le renseignement, quels sont ces deux dangers ? Le premier, c'est l'extension du champ du renseignement qui nous concerne tous. Dans les finalités sont ajoutées les possibilités de placer une personne sous surveillance au nom de la défense et de la promotion des intérêts essentiels de la politique étrangère de la France. Et également au nom de la prévention des violences collectives, c'est-à-dire en clair, de surveiller des opinions critiques, par exemple sur la politique étrangère, prenons l'intervention en Libye du temps de Nicolas Sarkozy qui avait été approuvée par tout le monde et que par exemple le journal que je dirige avait contesté. Et puis évidemment, une dérive qui serait la surveillance des mouvements sociaux, de ces violences qui parfois viennent de la société elle-même et qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et puis l'autre crainte immense, et d'ailleurs le vote a eu lieu cette nuit, c'est l'installation de la possibilité de collecter les données de connexion des internautes directement chez les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs numériques, avec même un dispositif de prédiction des actes terroristes par la détection des comportements en ligne avec des algorithmes installés chez ces opérateurs pour surveiller sur le réseau les internautes répondant à un certain nombre de critères définis au préalable. Alors, face à cela, il y a quoi ? Eh bien, excusez du peu, il y a Reporters sans frontières, Privacy International, Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, l'Union syndicale de la magistrature. Oh, le juge antiterroriste Marc Trévidic, qui quand même s'y connaît en lutte contre le terrorisme. Je le cite, « Ses pouvoirs exorbitants se feront sans contrôle judiciaire. Ne mentons pas aux Français en présentant ce projet comme une loi antiterroriste. Il ouvre la voie à la généralisation de méthodes intrusives hors du contrôle des juges judiciaires, pourtant garant des libertés individuelles dans notre pays. » Il y a donc aussi l'Ordre des avocats de Paris, le syndicat des avocats de France. Il y a les entreprises du net, les immenses opérateurs du net, y compris le très modéré et patron actuel d'Orange. Mais mieux encore, les 7 hébergeurs français, dont les deux principaux, OVH et Gandhi. Dans une des déclarations, celui qui a créé OVH et qui vient de la Pologne à l'époque communiste, déclare ceci. « J'ai connu ce genre de choses dans mon enfance. C'était il y a à peine 25 ans. On est proche des pires régimes. Nous avons annoncé un plan d'investissement de 400 millions d'euros sur 3 ans. Nous devons décider d'ici à septembre comment répartir cette somme et où investir. Si la loi est votée, nous irons mettre nos serveurs ailleurs. Si la loi passe, nous irons de l'autre côté de la frontière au Royaume-Uni en Allemagne. Mais il y a également l'Agence de régulation des télécommunications, l'ARCEP, la Commission nationale informatique et liberté, le Conseil national du numérique, le défenseur des droits, l'actuel président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui rend son avis cet après-midi, ce jeudi après-midi, sans compter la commission qui actuellement au Parlement, gauche-droite confondue, travaille sur l'âge et sur les droits et les libertés à l'âge du numérique. Face à tout cela, Que dit le pouvoir ? Circuler, il n'y a rien à voir. Cette société a tort, elle nous caricature, elle est irresponsable. C'est nous qui savons mieux qu'elle comment la défendre. Alors à ces socialistes, j'ai envie de rappeler un épisode douloureux qui pourtant glorieux de notre République. Il y eut des attentats à la fin du XIXe siècle, ils étaient anarchistes. Il y eut des lois votées dans la précipitation. Et il y eut, au moment de la grande bataille de l'affaire Dreyfus, des hommes qui se sont levés. L'un, je le cite, « La France a connu à plusieurs reprises au cours de ce siècle ces paniques provoquées par certains attentats, savamment exploités par la réaction et qui ont toujours fait payer à la liberté les frais d'une sécurité menteuse. » Francis de Pressenceux, fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Et le dernier, j'en arrête là, telle est l'histoire des lois scélérates. Il faut bien leur donner ce nom, c'est celui qu'elles garderont dans l'histoire. Elles sont vraiment les lois scélérates de la République. J'ai voulu montrer non seulement qu'elles étaient atroces, mais ce que l'on sait moins, avec quelle précipitation inouïe ou quelle incohérence absurde ou quelle passivité honteuse elles avaient été votées. À l'époque, c'était signé un juriste. Ce juriste s'appelait Léon Blum.